A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinès, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non ! Non !
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Dans la collection du moment, on s'intéresse à Barry, une série de HBO qui gagne à être connue. On vous expliquait en détail tout le bien qu'on en pense dans l'épisode de la semaine dernière. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la caméra pour vous parler de l'équipe derrière Barry. On va évidemment évoquer Bill Hader, à la fois producteur, réalisateur, scénariste et acteur principal, mais pas seulement. On vous parlera aussi de son comparse, co-créateur de la série Alec Berg, et puis du reste du cast. Allez, pour cette plongée dans les coulisses de Barry, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Et Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Alors, on l'a dit, aujourd'hui, place à celles et ceux qui font le show. Et s'il y en a un dont on va examiner la carrière sous toutes ses coutures, bah, c'est bien Bill Hader. Il l'a co-créé avec Alec Berg, mais à l'origine, c'est lui qu'HBO était allé chercher en lui faisant signer un accord de développement exclusif pour une nouvelle série comique. Ça, c'était en 2014. Et il se trouve qu'à l'époque, Alec Berg travaillait déjà chez HBO, ils avaient le même agent et ils se sont dit bon bah si on s'entend bien, si on arrive à se supporter l'un l'autre, peut-être qu'on pourrait bosser ensemble. Et donc Bill Hader, pour revenir un peu plus précisément sur lui, donc humoriste, acteur, scénariste, producteur, réalisateur, c'est un être humain très productif.
Et pourtant un talent assez discret, mais en tout cas pour déjà les spectateurs français, je pense, puisque quel film en fait pourrait vraiment être. Je sais que par exemple il apparaît dans Ça, chapitre 2, donc peut-être qu'il y a une partie des spectateurs qui le reconnaîtront de ce film-là en fait, qui est quand même un gros carton, un gros blockbuster du cinéma d'horreur quoi. Il a aussi été dans Trainwreck, le film avec Amy Schumer, dans lequel il incarne justement le type dont elle va tomber amoureuse en fait dans le film quoi. Mais évidemment moi en tout cas pour moi je sais que je l'ai découvert beaucoup dans le Saturday Night Live et à travers pas mal de personnages assez truculents. Il y a Stéphane notamment en fait qui est un espèce de mec exubérant dans la mode.
Il y a un guide touristique new-yorkais,
ouais voilà, mais qui est très très fashion quoi. Moi un truc que j'aime beaucoup c'est un présentateur de d'émissions télé italiennes de cinéma qui s'appelle Veni Vedici quoi, qui mange des pâtes en fait en interviewant les des stars en fait avec lesquels il parle moitié anglais moitié italien en fait donc voilà c'est un personnage assez rigolo et en fait il est dans l'abattage, c'est quelqu'un qui est vraiment vraiment très très volubile en fait dans sa façon de dans son humour quoi qui est très c'est un vrai créateur de personnages et qui est très dans le voilà, on le disait un petit peu dans l'épisode précédent, qui a des vrais talents d'imitateur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui physiquement en fait se fond en fait dans les personnages qu'il crée, même si en gros il a pas forcément toujours besoin de changer d'allure physique, puisque c'est quelqu'un qui a, on en parlait la dernière fois, Rafik disait que c'était quelqu'un qui était pas très beau. Moi, je le trouve assez charmant. En fait, par certains aspects, quoi.
Qu'il n'était pas très beau. Je disais qu'il avait une difformité, en fait, dans la dureté de ses traits. Mais ça, c'est au-delà du.
C'est au-delà du pas très beau.
Mais ça, ça lui donne du caractère aussi. Et surtout, il en joue de ce physique que je trouve disgracieux, mais intéressant.
En tout cas, je peux comprendre qu'on puisse le trouver charmant, voilà. Et ça m'étonne pas de le voir, par exemple, interpréter encore une fois le romantic interest en fait de Demi Schumer en fait dans un film, ce genre de choses quoi. Et donc oui, c'est comme il a cette espèce de physique, et encore une fois, il a un, moi je trouve que c'est surtout le truc que je remarque chez lui, c'est qu'il a un œil un peu mort, en fait. Il a un œil qui part un peu sur le côté, et du coup, en fait, ça lui donne un certain, comment dire, oui, un caractère, comme dit Rafik, quoi. Mais en tout cas, quelque chose d'assez unique, en fait, dans son visage, quoi. Et presque impassible, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment, en fait, il est capable de jouer ces choses-là. Et pourtant, il est tout sauf impassible. Il est très connu. Il y a deux, je crois, comédiens qui sont très connus au Saturday Night Live pour break character, comme on dit, c'est-à-dire vraiment... parce que Saturday Night Live, c'était vraiment tourné dans les conditions du direct. Donc, quand il y a eu de l'humour, certains comédiens se mettent à rire. Et ne plus être dans leur personnage parce qu'à cause de la
situation. Ils ne peuvent plus tenir leur rôle.
Voilà, c'est ça. Et les deux qui étaient connus pour ça, il y a Jimmy Fallon, mais lui, on le suspectait de le faire exprès pour se faire remarquer. Alors que, apparemment, Bill Hader, c'est vraiment naturel chez lui. C'est-à-dire que même sur, le tournage de Barry, l'équipe technique lui reprochait de rigoler, en fait, pendant les scènes. Et de retarder le tournage, en fait, d'un seul coup, parce que, en gros, il y a par exemple, il y a avec Henry Winkler, il a une scène où il lui raconte, en fait, une technique d'acteur, en fait, qui s'appelle, je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est lié à Brian Dennehy, qui est un acteur qui joue le shérif dans Rambo. Et en gros, il imitait, en fait, son bide qui explose, en fait, faire croire que son bide explose dans je sais plus quel film. Et à chaque fois qu'Henry Winkler le faisait, en fait, et qu'il faisait un bruit, en fait, avec son ventre, t'as Bill Hader qui était, mais mort de rire. Ils étaient obligés de le filmer de dos pour pas, en fait, que ça se voit, parce qu'il était obligé de fermer les yeux pour essayer de pas rigoler pendant chaque prise, quoi. Donc, et ça, dans Saturday Night Live, il y a un nombre de fois où il le fait, mais et ça se voit. Enfin, voilà, et c'est assez marrant, et ça lui donne aussi, moi, je trouve, un certain côté, sympathique, quoi. Enfin, voilà. Et effectivement, alors, c'est aussi, mais ça, on va pas mal en parler avec Rafik, hein. Je pense que quelqu'un de très cinéphile, en fait.
Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui rêvait d'intégrer le cinéma,
qui est arrivé à Los Angeles pour ça.
Qui est arrivé à Los Angeles comme ça, qui a galéré, hein.
En 99, il arrive à LA pour devenir réalisateur.
Ouais. En fait, mais c'est littéralement son premier boulot. Il a été cherché dans les petites annonces pour devenir assistant réalisateur. Enfin, vraiment, il a monté les échelles. Je crois qu'il a bossé sur Le Roi Scorpion, ce genre de trucs. Ouais. Là, il a tout fait.
Le Roi Scorpion, c'est même ce qui lui a fait de changer son fusil d'épaule, parce que ça s'est tellement mal passé pour lui qu'il s'est dit, je vais peut-être faire autre chose. Et si j'allais voir du côté de l'acting ce que ça donne.
Et c'était une époque de sa vie où il bossait 18 heures par jour. Enfin voilà, c'était super super dur. Et en même temps, quelqu'un qui bouffe des films comme depuis son plus jeune âge. Il vient de l'Oklahoma, donc un coin des États-Unis où on n'est pas censé, où on n'est jamais censé faire du théâtre ou du cinéma. Mais sa mère, en fait, était un prof de danse. Donc déjà, c'était une famille entre guillemets d'intello, tu vois, pour la ville de tout ça. Et ses parents lui faisaient regarder beaucoup, en fait, de films. Il raconte que son père lui montrait Orange Mécanique, et à chaque fois qu'il y avait une scène un peu trop dure, lui disait tu sors de la pièce, tu reviens. ou je crois qu'il y a une babysitter aussi qui, parce qu'elle avait envie de regarder Full Metal Jacket, elle l'a mis alors que les gamins étaient sur le canapé à côté d'elle, etc. Bon, ce genre de choses. Et lui trouvait ça tout à fait normal et super cool de voir ces films too much, violent, etc. Et très vite a remarqué effectivement les noms récurrents, dès son plus jeune âge, il remarque effectivement les noms de Joe Dante, John Landis sur les jaquettes des VHS, et il commence à faire un lien, à se dire mais en fait ouais, ces mecs là ils font des films. Donc au départ sa montée vers la cité des anges, c'est vraiment dans l'idée de devenir réalisateur. En fait, il se voit pas forcément comme comédien, mais il a ce talent incroyable d'imitateur, qui est dû aussi, faut le dire, hein, aux heures passées à voir et à revoir et à revoir les scènes, qui effectivement, il te fait parfaitement un De Niro, un Pacino. Pacino, son imitation de Pacino, elle est juste complètement dingue. Je crois qu'on peut voir un show télé comme ça où t'as Pacino qui est en face et qui revient pas de ce que Bill Hader est en train de faire, quoi, parce que c'est pas du tout dans l'exagération, il est vraiment en train de faire Pacino, mais parce que voilà, il les a littéralement appris par cœur, ces films là, et c'est ce qui va lui valoir son son breakthrough dans au Saturday Night Live au départ, ce talent d'imitateur, mais il va se révéler être effectivement un comédien plutôt avec un large éventail, et aussi il a cette capacité à jouer beaucoup de sa voix très grave et très posée qui va beaucoup lui servir.
Il fait énormément de voix
dans les dessins animés, ouais.
Ah ouais, tout à fait. Pour en citer quelques-uns, il a travaillé sur Tempête de boulettes géantes, ouais, sur toute la franchise, ouais, mais aussi Turbo, Monster University, Inside Out,
ouais, c'est ça.
La peur.
La peur, et encore d'autres, Finding Dory, donc la suite du monde de Nemo, Angry Birds The Movie, et Addams Family numéro 2, qui vient de sortir là, cet automne. Donc ouais, beaucoup de voix. Au cinéma, on l'a brièvement évoqué, mais il incarne quand même pas mal de personnages secondaires dans des films de toute la galaxie de Judd Apatow.
Des flics.
Dans Super Grave, il joue dans Tropic Thunder, il joue dans Sans Sarah, rien ne va, Forgetting Sarah Marshall pour le titre original. Voilà, il apparaît quand même au cinéma, même si on ne le voit que très rarement dans le premier rôle.
Mais effectivement, sa compulsion à bouffer des films en a fait un cinéphile accompli, et ça a été, je pense, une surprise pour pas mal d'entre nous lorsque, alors je sais quoi, c'était il y a 6-7 ans, je sais plus, où il avait publié sur le site Collider une liste de ses films favoris. Alors je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 223 pour être plus exact. Et quand on voit cette liste, on a l'impression de le connaître, on se dit mais c'est pas possible, il fréquente les mêmes boutiques que nous, quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'habituellement chez les comédiens, quand ils te citent leurs films favoris, c'est toujours un peu les mêmes, le même panel, on va dire, de grands classiques officiels. Or là, on se retrouve avec du Mario Bava, avec du Kobayashi, avec des trucs. Basiquement, il faut Bill Hader, c'est 10 ans de l'étrange festival à Paris, quoi, si tu veux. Il a vraiment vu et apprécié tous ces films-là. C'est ce qu'on appelle une cinéphilie pointue. Voilà, c'est quelqu'un. On cite pas, je sais pas moi, Opération Peur de Bava ou Quaidan ou Los Olvidados de Buñuel par hasard. Généralement, il y a des titres de films, quand quelqu'un te les cite, tu dis t'es allé loin, en fait. Pour en revenir avec ça, c'est que t'es vraiment allé chercher très loin. Donc c'est quelqu'un qui a bouffé un nombre incalculable de films, et ça va être essentiel dans la constitution de l'identité d'une série comme Barry, parce que ça part d'un pitch qui aurait pu déboucher sur n'importe quoi, en fait. Hein, Barry serait très bien pu être une série rigolarde, rigolote, très très cynique par rapport à son sujet, etc. Mais en fait, l'apport de Bill Hader va lui apporter une assise dans une façon de procéder. On parlait des frères Cohen dans l'épisode précédent. En fait, on retrouve pas par hasard le chemin des frères Cohen. On parlait aussi du fait que cette série nous surprenne régulièrement. Ça aussi, c'est un réflexe de cinéphile. C'est le réflexe de quelqu'un qui a vu tellement de fois ces séquences-là que ça l'intéresse pas de refaire la même chose. Comment je peux passer outre? Comment je peux contourner le truc? Comment je peux faire autrement, en fait? Et Barry, c'est ça. Chaque épisode, on essaie de faire autrement.
Et c'est lié aussi, je pense, à la façon dont Barry a écrit, hein, parce que apparemment, donc c'est comme toujours, hein, dans les séries américaines, il y a quand même c'est-à-dire qu'il y a évidemment Bill Hader et Alec Berg, en fait, qui sont présents, mais il y a aussi un staff, en fait, de scénaristes, mm-hmm, avec qui on confronte, en fait, les idées. Et en fait, ils ont cette espèce de board, en fait, sur dans la salle de réunion, quoi, où ils mettent les idées qu'ils veulent vraiment traiter. Et en fait, ils partent avec ces idées-là, les scénaristes, pour écrire les scènes. Et la repasse derrière, c'est vraiment Alec Berg et Bill Hader, en fait, qui reviennent dessus et qui définissent, parce qu'à un moment donné, comme chacun va s'octroyer un épisode ou je sais pas quoi, en gros, il faut qu'il y ait quand même une unité générale et que ça soit cohérent, quoi. Mais ils ont besoin d'avoir des scénaristes qui vont pas leur donner, en fait, qui vont pas forcément abonder dans leur sens, en fait. Et je pense que si lui, effectivement, il a cette cinéphilie, il a aussi le besoin d'avoir du recul sur ce qu'il fait. Et du coup, voilà, il y a dans cette logique d'écriture, même si on lui accorde beaucoup à lui et à Alec Berg, en fait, que ce soit vraiment leur bébé, leur ton, etc., etc., cet apport général derrière, est très important, et je pense qu'il le chérit parce qu'il a besoin, en fait, effectivement, de pouvoir être l'idée dont on parlait dans l'épisode précédent, que comment dire, que à un moment donné Barry va devoir former en fait un groupe de Tchétchènes, de mafieux Tchétchènes, à devenir une armée de tueurs, quoi. C'est vraiment pas du tout une idée qu'ils ont eue, en fait, ni Alec Berg ni Bill Hader, mais c'est vraiment une idée qui venait des scénaristes et qui leur ont dit mais pourquoi vous faites pas ça. Et là d'un seul coup ils se disent mais c'est une idée géniale, il faut impérativement qu'on la garde, et c'est mine de rien c'est étalé sur 2-3 épisodes, voilà, et ça prend une certaine place, quoi. Et donc oui, il y a ce fonctionnement, et en même temps il y a cette idée de faire quelque chose de totalement, parce que comme c'est quand même une série qui a un certain point de vue très spécifique, en fait, sur la façon dont elle traite ses séquences, quoi. On pourrait croire que c'est une série entre guillemets d'auteur à proprement parler. Mais il y a quand même encore une fois l'exigence, en fait, narrative qui est liée à une série aujourd'hui, en tout cas, généralement. Et oui, enfin, je veux dire, il a il a cette façon de fonctionner, en fait, qui est une façon de fonctionner qui est collégiale, en fait, vraiment, il a ce besoin-là. Et je pense que c'est là aussi où il se retrouve avec Alec Berg.
C'est sans doute le SNL aussi qui l'a marqué. Il a quand même passé 8 ans, de 2005 à 2013, en tant que membre de l'équipe. 8 ans à travailler en groupe, à travailler à plusieurs. C'est forcément, ça a une influence sur la façon d'écrire.
Alors, c'est vrai ce que tu dis, même s'il faut savoir que la problématique du SNL, et c'est quand même assez fréquent, ça, pour beaucoup, dans le SNL, c'est qu'en fait ils ont tendance à se tirer la bourre, hein, les comédiens entre eux, parce qu'il y a vraiment des vraies rivalités, en fait, qui naissent, parce que ils cherchent justement à avoir l'assentiment des scénaristes pour pouvoir avoir des sketchs à eux, en fait, et pouvoir être sûr de passer ce qu'ils appellent je crois c'est le dress rehearsal, c'est ça, dans le Saturday Night Live. C'est vraiment, en fait, quel sketch va rester, quel sketch va virer, et des fois ça se fait le jour même, en fait, avant l'enregistrement, quoi. C'est ça,
ouais,
à la répétition, ouais. Et du coup, alors je ne sais pas si Bill Hader fonctionnait vraiment dans ce genre de fonctionnement là, enfin s'il était vraiment dans ce genre de rivalité, on va dire. C'est pas quelque chose qui ressort automatiquement, mais dans Saturday Night Live c'est très très connu. Donc c'est vrai que c'est effectivement obligatoire de devoir travailler avec en bonne collaboration, mais assez fréquemment l'énergie de l'émission, en fait, faisait que voilà, il y avait beaucoup de conflits, quoi.
Il n'était pas forcément dans un conflit ouvert, parce que lui se considérait pas comme un comédien. Encore une fois, il s'est retrouvé avec des gens, on le répète, hein, mais Saturday Night Live c'est la plateforme de lancement aux États-Unis, donc il y en a qui arrivent avec les dents qui rayent le parquet et qui sont prêts à tout pour défoncer tout le monde, quoi, et se mettre en avant. Lui il se sentait même pas comédien, en gros il était en mode qu'est-ce que je fous là, et ça lui a valu des crises d'angoisse qui parfois sont devenues des crises de panique, en fait, notamment un sketch où il a interprété Julien Assange et où il était carrément pas bien, quoi. Il a failli ne pas le terminer, quoi.
Alors, une autre preuve qu'il est capable de travailler en équipe correctement, c'est qu'il a aussi collaboré avec l'équipe de South Park à la base, parce que il est devenu ami avec Matt Stone, hein, ils s'entendaient très bien, ils avaient le même genre d'humour, et Hader a fini par participer à ce qu'ils appellent les retraites d'auteurs. Ils partent en villégiature ensemble pendant une semaine, ils vont brainstormer sur des thématiques, sur des idées de scénarios, de gags, etc. Et voilà, et il a commencé à partir de la 12e saison à travailler sur la série. Il a été aussi consultant créatif et même producteur exécutif. Il fait partie des producteurs de la série qui ont remporté l'Emmy Award de 2019 de la meilleure série animée. Donc là aussi, sa contribution... sa contribution est marquante.
Mais alors je pense que c'est quelqu'un qui avait, parce que même s'il a cette expérience là, c'est quelqu'un, je pense, qui était au service, en fait, de South Park, différemment, en fait, pour le coup. Trey Parker et Matt Stone, c'est leur bébé, c'est des gens qui ont un fonctionnement très très spécifique, quoi. Mais alors que là, je pense que l'indifférence, en fait, avec Barry, c'est que pour le coup il est quand même décisionnaire principal, et l'aspect collaboratif me semble beaucoup plus joyeux, en fait, entre guillemets. Mm-hmm. C'est-à-dire que je crois qu'il s'en est pas forcément plaint, hein, de South Park, mais il avait conscience, en tout cas il l'a souvent dit, qu'il avait conscience, en fait, que de toute façon il devait servir Trey Parker et Matt Stone, alors que là l'inverse, en fait, c'est que les scénaristes le servent, lui, en fait, sur une série comme Barry, et mais avec l'idée qu'il puisse reconnaître effectivement que c'est important de pouvoir, avoir des gens qui leur donnent des points de vue, qui confrontent des points de vue, et en fait, qui leur disent, mais là, vous vous faites pas chier, en fait, là, il faut faire un peu plus, faut être un peu plus original et tout, quoi.
Ouais,
être
dans le challenge.
Permanent. Et de toute façon, c'est le propre de la série, hein. Je pense que c'est vraiment l'idée que, encore une fois, on ne sache pas où elle va, quoi. Est-ce qu'on parle peut-être un petit peu de d'Alec Berg?
On va en parler. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir avant qu'on clôture la partie Billader, parce que c'est une série que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Je sais pas si vous avez vu Documentary Now.
Non.
Non, oui, mais je vois ce que c'est.
Vous voyez ce que c'est. Donc c'est une série de mockumentaires, de faux documentaires humoristiques qu'il a créé en équipe aussi avec Fred Armisen du SNL et Seth Meyers, et qui reprend, en fait, chaque épisode va parodier
un documentaire,
un style de documentaire bien particulier, et c'est à mourir de rire, parce que là aussi on sent qu'alors il a maté beaucoup de films, il a maté beaucoup de docu aussi, et il sait parfaitement faire ressortir les ficelles. Donc il y a documentaires à la comme les documentaires qui parlent de cuisine qu'on voit sur Netflix, qui sont très beaux, qui sont très bien léchés, et qui vont complètement retourner. Il y a des documentaires qui parodient Vice, cette plateforme d'info, avec un ton très très ironique, très jeune,
et un peu sensationnaliste aussi.
Et sensationnaliste, et là ça devient Drones, et c'est à mourir de rire. C'est Jack Black qui incarne le rédac chef, qui envoie des journalistes sur le terrain pour aller, je crois qu'ils veulent interviewer un baron de la drogue, et en fait les journalistes se font zigouiller les uns après les autres, à chaque fois il en renvoie. Bref, si vous avez l'occasion, Documentary Now, c'est vraiment excellent.
Et encore une fois, dans une démarche très cinéphile, parce que qui imite effectivement le style visuel très particulier. Moi je sais que ça m'a flingué un doc, parce que j'avais vu un épisode en fait de Documentary Now sans savoir que c'était une parodie d'un autre documentaire oscarisé pour le coup, et lorsque j'ai vu le documentaire en question, j'étais mort de rire, alors que c'est pas censé être drôle du tout, parce que je me rappelais de la connerie que j'avais vue, quoi.
Effectivement, bon, alors faut le voir en étant prévenu, mais en tout cas c'est à nouveau une production de qualité. Et donc Alec Berg, qui est l'autre papa de Barry, Alec Berg, on l'a dit, ils avaient le même agent au départ, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à travailler ensemble. Lui, il est aussi très productif, hein, même si son nom peut-être ressort un peu moins. Il a écrit, était prod exécutif sur Seinfeld et Curb Your Enthusiasm de Larry David.
Larry et son nombril en français. Apparemment, c'est le titre français.
C'est ça, Larry et son nombril. Et c'est aussi un des producteurs exécutifs de Silicon Valley.
Ouais. Et on retrouve peut-être un petit peu de cet humour, de cette capacité à tracer des portraits très vite, en fait. Les personnages de Silicon Valley sont des personnages qui sont pas faciles à vendre au public. Comme on vend des nerds de la big tech, et en les rendant drôles en plus, et en faisant en sorte que le public reconnaisse immédiatement au-delà de la parodie, la vérité du personnage, quoi. Mm-hmm. Et ça aussi, ça va être très utile dans Barry, justement, pour crédibiliser des personnages finalement assez incroyable. On parlait des Tchétchènes dans les épisodes précédents, mais il faut les vendre, hein, des personnages comme ça, et c'est par des petits particularismes, des tics de langage, des choses comme ça, enfin, qu'il arrive à te faire croire que ce personnage existe, quoi.
Et justement, ce personnage même de Barry, au départ, il y a eu cette discussion quand ils ont commencé tous les deux à évoquer cette idée. C'est Adder qui est allé voir Berg en lui disant « Et si j'étais un tueur à gages ?» Et Alec Berg lui a dit « Moi, je déteste les tueurs à gages. Je trouve que c'est une idée complètement nulle. »
Et c'est le fait qu'ils lui disent que c'est moi qui vais l'interpréter, qui lui dit ah mais là ça m'intéresse vraiment beaucoup plus, quoi. Mais de toute façon il y a ce côté un peu, enfin chez Alec Berg, alors bon, on peut pas forcément en faire un auteur automatiquement, mais c'est quelqu'un qui semble vraiment intéressé par une sorte de de comédie acerbe. C'est-à-dire que, mine de rien, en fait, et suivant les époques dans lesquelles on se retrouve, et dans l'évolution des séries télé, on va dire, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, c'est des séries, en fait, qui étaient complètement hors normes, en fait, quand elles sont sorties. Donc, forcément, par la force des choses, au-delà de l'aspect méta, au-delà de l'aspect, etc., etc., il y a l'idée, en fait, qu'on fasse rire, en fait, avec quelque chose d'assez, finalement, caustique, quoi. Donc,
avec des prises de risque, en fait. Mmh. Ouais. Des prises de risque par rapport à ce qui est attendu à la télévision. C'est important, encore une fois, dans une série comme Barry, quand on parlait de prendre régulièrement le spectateur à revers, rebrousse-poil, etc. Cœur bur enthousiasme, c'est pas une série qui te brosse dans le sens du poil. Il y a des moments, c'est grinçant et ça fait mal aux dents, quoi.
Ouais, et puis même les premiers épisodes, la forme, elle est dégueulasse. Enfin, vraiment, hein, c'est-à-dire que c'est filmé en vidéo, c'est moche. Donc, faut vraiment, enfin, le personnage de Larry David, il devient sympathique, entre guillemets, par,
c'est
voilà.
C'est sympathique ordure.
Mais... Voilà, c'est ça, mais c'est quelqu'un qui est profondément antipathique à la base, qui est profondément presque, en fait, c'est un sociopathe qui se force à être social, en fait, associable, et en fait du coup ça devient, enfin la formule elle est vraiment vas-y
non vas-y
non, mais en fait donc du coup il devient vraiment difficile, enfin il est à la fois difficile à suivre. Moi j'adore, hein, Curb Your Enthusiasm, c'est vraiment, je trouve ça vraiment très très drôle, mais du coup en fait on sent qu'il a ce type d'humour là, et en même temps faut savoir que par exemple il a je suis peut-être le seul à avoir vu à cette table, il lui est arrivé en fait de faire des comment dire,
il a coécrit des scénarios de films aussi.
Voilà, c'est ça, et notamment moi il y en a un qu'il a co-réalisé, mais il est pas crédité pour des raisons, en fait, parce qu'il y a trois réalisateurs sur le film. C'est une comédie, une teen comédie, mais qui est vraiment, en fait, aux États-Unis, s'appelle Eurotrip. Et c'est l'histoire d'un groupe de jeunes, en fait, qui font un voyage en Europe et qui, d'un seul coup, se retrouvent dans des galères. Voilà. Alors, c'est vraiment une teen comédie, très classique, hein, dans son déroulement et dans tout ça, mais avec en fait parfois un humour vraiment stupide, et c'est un truc qu'il aime bien aussi, quoi. C'est-à-dire il a aussi écrit il a écrit une version, bon, vraiment pas fameuse pour le coup, du chat chapoté, hein, en fait, avec Mike Myers, qui est et c'est ça semble pas incohérent, hein, qu'il travaille avec quelqu'un comme Mike Myers, mais c'était vraiment dans la lignée du Grinch avec Jim Carrey. Et c'est vraiment un film, enfin moi je sais pas, de mémoire assez
transparent,
ouais, pauvre, quoi.
Mais c'est, je pense aussi là où se rencontre avec Bill Hader, c'est dans ce goût de casser certaines attentes et certains moules. On parlait de Curb Your Enthusiasm, on a Larry David qui est en train de faire un truc pas bien. Il passe son temps en fait à essayer de, comment dire, de trouver des raccourcis à la vie, quoi, de s'en sortir à bon compte en n'étant pas tout à fait honnête, pas tout à fait comme il faut, et évidemment la vie se met en travers de son chemin. C'est un truc qu'on retrouve aussi dans Barry, en fait, et je pense notamment il y a tout un épisode où Barry doit buter un mec, c'est son boulot, donc, et décide de se mettre en sniper devant la maison de ce type là donc on est dans une configuration très connue au cinéma, celle du sniper qui attend que sa victime sorte de la maison, sauf qu'en fait il y a tous ces problèmes de avec la troupe de théâtre qui viennent le perturber, parce qu'en fait son téléphone n'arrête pas de lui envoyer des SMS alors qu'il est censé être concentré sur sa cible, et il sait pas qu'est-ce qu'il doit choisir. Bon, en réalité là on est dans presque dans du Larry David plus, quoi. C'est-à-dire c'est Larry David, il est en train de faire sa saloperie entre guillemets, tu es, et en fait la vie vient l'emmerder et lui rappeler qu'il a des obligations, et là les obligations de Barry c'est les obligations de vivre comme un humain avec des humains, et donc d'avoir des rapports sociaux, et donc répondre à ces SMS au lieu de tranquillement tuer le gars qu'il a en face de lui, quoi.
Alors si vous voulez entendre encore plus parler de Larry David, on en avait longuement discuté dans la collection numéro 2 sur Seinfeld. Je crois que c'est dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez le réécouter très très rapidement. Avant de conclure, on va quand même parler des autres membres du cast, parce qu'il y a des choses à dire aussi sur eux. À commencer par un comédien qui a été connu du grand public pour ça. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are happy days. These days are Henry Winkler, qui joue donc Gene Cousineau, le prof de théâtre, et qui incarnait dans Happy Days le célèbre Fonzie, hein, de Arthur Herbert Fonzarelli, de son vrai nom et il l'a incarné pendant 11 ans.
Bah, le personnage de Cool, en fait, par excellence, même si moi je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça assez drôle parce que j'ai toujours trouvé que Henry Winkler avait quand même tout un physique tout sauf cool, en fait, à la base, quoi. C'est quand même, il a une espèce de je vais faire mon graphique là, mais une tête d'oiseau un peu étrange, quoi, un peu puis un physique un peu, comment dire, il est pas très grand, il est un peu, alors maintenant parce qu'il est un peu plus vieux, il est voûté sur lui-même, mais même déjà à l'époque, il était pas forcément, il jouait pas de cette stature là et pourtant en fait on lui faisait jouer ce personnage de mec, enfin de biker entre guillemets, ultra cool, etc. Et moi j'ai jamais eu, enfin je regardais pas mal Happy Days quand j'étais gamin, forcément. C'est marrant parce que je l'ai jamais vu sur sa moto quasiment, en fait, donc c'est ça qui m'a toujours un peu marré. Moi je me rappelle de lui parce qu'il va pour se coiffer puis finalement il est coiffé parfaitement, ce genre de choses, quoi. Et voilà, et c'est quelqu'un qu'on a retrouvé finalement parce que justement il a ce personnage culte. On l'a retrouvé dans pas mal de films un peu nostalgiques. Par exemple, c'est un habitué des comédies d'Adam Sandler, et Adam Sandler c'est quelqu'un qui est fondamentalement très nostalgique et qui l'emploie parce qu'il aime il a une troupe de comédiens autour de lui, et Henry Winkler en fait vraiment partie. Il apparaît dans Little Nicky, il apparaît dans c'est le coach dans Waterboy, ouais. Il joue son père dans Click. Enfin voilà, c'est un comédien qui revient régulièrement. Il a une scène, je crois, Chuck et Larry, je sais plus comment
ça s'appelle. Et en fait, ce sont ces réalisateurs des années 90 qui, en fait, vont lui permettre de se révéler en tant que comédien, parce qu'il faut dire les choses, hein. Fonzie, c'est pas un rôle, quoi, c'est une fonction. Donc c'est amusant qu'il soit le prof de cette troupe dans Barry, parce que c'est précisément quelqu'un qui n'a pas eu de carrière, en fait, Henry Winkler. Il a été un personnage de télévision, quoi. Mais il est passé à côté de sa carrière de comédien d'une certaine façon. Et dans les années 90, enfin, je pense notamment à un film comme Click, dans lequel au début des années 2000, dans lequel il a des moments très émouvants qui étaient inattendus de sa part. On se disait, tiens, en fait, Henry Winkler, ici, il vraiment jouait la comédie, quoi. Et on retrouve le personnage du prof de Barry là-dedans, dans sa propre biographie.
D'ailleurs, manifestement, il a insufflé vraiment quelque chose de particulier à ce professeur, parce qu'originellement, le personnage était beaucoup plus froid, beaucoup plus sombre. Et puis finalement, il lui a donné aussi ce côté à la fois agaçant, mais quand même sympathique, malgré tout.
Prétentieux surtout, en fait. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est un personnage qui effectivement, comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, est un acteur raté, hein, en vrai, parce que c'est quelqu'un qui est pas vraiment capable d'avoir des... Il fait des castings et il continue, comment dire, à essayer de tourner dans des films ou dans des séries, alors que, en fait, de l'autre côté, il est prof et il explique un peu la vie à ses élèves, quoi. Qui d'ailleurs le voient comme, comment dire, comme Dieu le Père, hein. En fait, ils sont incapables de se dire qu'ils peuvent faire une représentation de pièce si lui n'est pas là pour les diriger, en fait, alors que ils ont beau avoir répété, quoi. Donc, du coup, il y a ça. Et puis, la série lui offre effectivement quelques moments savoureux et quelques moments touchants, parce que voilà, il a un arc narratif, on va pas vraiment spoiler, mais qui est touchant. Et je pense notamment, en fait, il y a cette anecdote qui est assez marrante, et je pense, parce que à mon avis, Henry Winkler, il a conscience de qui il est, parce qu'il a été une star, en fait. C'est ça le truc, c'est que, en fait, à cause de Fonzie, ça a été une star, il est reconnaissable. Il a eu des films, en fait, il a eu des premiers rôles, hein, vraiment, mais ça n'a jamais marché au cinéma. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a une espèce d'humilité, pour le coup, qui est à l'inverse de son personnage. Et notamment sur Barry, bah en gros, ce qui s'est passé, c'est que il a insisté pour être auditionné, en fait, comme tous les autres comédiens de la série. Et Bill Hader racontait ça, il disait, mais pour Nounou, il avait le rôle. Il a fait non, mais peu importe, je veux vraiment savoir si je suis le bon acteur pour ce personnage-là, quoi.
Et Eder était complètement fou quand il a su que c'était bon et que justement Winkler venait auditionner. Mais alors, peut-être que le cinéma lui a pas réussi, mais en tout cas, les séries, oui, puisque à côté de ça, on le retrouve dans Aristide Development, donc beaucoup plus tard que Happy Days, hein, d'abord de 2003 à 2006 pour les trois premières saisons, et puis il revient en 2013 et en 2018. Comme il le dit lui-même, il est venu pour un épisode, il est resté 5 ans.
Et puis Parks and Recreations aussi, dont vous parliez récemment là, à propos de The Office.
Non, mais c'est, voilà. En fait, je pense que cette résurgence, elle vient effectivement des comédies d'Adam Sandler, hein. C'est, il y a vraiment cette idée parce que c'est, faut, encore une fois, c'est quelque chose que les Français n'ont pas forcément conscience, même si bon, ça a été un tel, ça a été tellement récurrent à une époque, mais il y avait certains films, en fait, les plus gros cartons des films de l'année. C'était les comédies d'Adam Sandler, hein, et c'était vraiment en fait des films qui sortaient à peine en France ou en tout cas qui étaient vraiment distribués.
En fait, c'était des sorties techniques en France parce que justement, ça, Adam Sandler, au même titre que Bill Hader et tous les autres, c'était un des prodiges du Saturday Night Live. Les Américains le connaissaient très bien pour son personnage, ses personnages du SNL. Et du coup, effectivement, quand il faisait des films d'été, chaque année, il dépassait la barre des 100 millions de dollars dans les années 90. Mais en France, ça devenait une sortie technique parce que bon, le distributeur avait ça à balancer en salle, mais aucun public pour suivre. Donc on a vu les affiches dans le métro de Waterboy, etc., mais personne n'allait voir ces films-là.
Voilà, et donc dans Waterboy, bah, il a ce rôle de coach, le coach de l'équipe de foot, tout ce genre de choses. Et du coup, en fait, son côté, c'est-à-dire que c'est assez marrant parce que Fonzie, c'est tout sauf un loser. Et d'un seul coup, on le découvre ce comédien Henry Winkler comme un loser dans la plupart des films en fait qu'il fait, quoi. Et ce qui lui donne un côté un peu plus touchant, un peu plus voilà. Et ça profite vraiment, je trouve, au personnage de Cousineau dans Barry, quoi. Parce que c'est un comédien en fait raté, quoi.
Et puis alors, il a encore d'autres choses dans son placard puisque c'est aussi un des producteurs exécutifs de MacGyver. Et oui, il faut quand même le noter. Et une dernière chose, il n'est pas juste comédien, producteur, etc. Il est aussi auteur, parce qu'il faut savoir qu'il est dyslexique et que pour aider les enfants qui souffrent même de dyslexie, il a commencé à écrire une série de livres pour enfants qui s'appelle Hank Zipzer. Et ça a tellement bien marché qu'il y a eu... Ça a commencé en 2003, mais il y a eu ensuite une autre série de livres en 2012, et puis même une adaptation télévisuelle par la BBC, voilà, également intitulée Hank Zipzer. Donc c'est quand même un artiste multifacette.
Tout à fait. Et donc, il a effectivement, avec Barry, trouvé peut-être... son meilleur rôle, en fait, en tout cas celui qui lui offre le plus de la plus large palette, ce qui encore une fois est très drôle par rapport au personnage qui joue dans sa série, qui est ce prof de théâtre dont on imagine qu'il n'a jamais pu jouer les rôles qu'il voulait. Et là, dans cette série-là, Henry Winkler peut enfin jouer toutes les facettes de la plus mélancolique à la plus drôle, quoi.
C'est plus qu'on l'imagine. Il y a un moment donné dans la série où Barry essaye d'échapper en fait à l'idée de devoir raconter son histoire en fait sur scène. Et du coup, il s'imagine, en fait, parce qu'il n'est pas cinéphile du tout, le personnage de Barry, contrairement à Bill Hader, et du coup, on lui dit, t'as qu'à faire le speech de Braveheart. Et il se met à reprendre le speech de Braveheart, et d'un seul coup, comme c'est un film qui est très connu, qui a eu les Oscars et tout ça, etc., parce que Barry ne sait pas, en fait, n'a pas l'air d'avoir conscience, les mecs lui disent, mais t'as pompé Braveheart, là, en fait, t'essayes de nous faire croire que tu fais ton truc. Et notamment, Cousineau vient le voir et lui dit, si, c'est Braveheart, parce que je sais que c'est Braveheart, parce que j'ai essayé de faire ce film pendant des mois et des mois, j'ai couru derrière, en fait, pour participer au casting. Et là, t'imagines Cousineau dans Braveheart, et tu te demandes quel personnage il est censé interpréter, donc tu dis oui, non, il est passé à côté de beaucoup de choses, quoi. Et c'est assez marrant, en fait, Mais alors, je sais pas si ça sera parce que je pense que malgré tout les gens se rappelleront de lui pour Fonzie, quoi. En tout cas le grand public, mais c'est effectivement peut-être un de ses meilleurs rôles.
Alors, il y a quelques autres acteurs de la série dont je voudrais qu'on parle avant de conclure. Ça va être plus rapide parce que ils ont aussi fait beaucoup de choses, mais on va peut-être pas autant détailler. D'abord, il y a Steven Root qui joue Fuchs dans la série.
Alors lui, il a un personnage culte à son actif, en fait, qui est le personnage de Milton dans Office. C'est Office Space, c'est ça?
Oui.
D'un des créateurs de Beavis and Butthead, que j'adore, mais dont j'ai...
Et de Silicon Valley.
Voilà, Mike Judge, merci. Et Milton, en fait, c'est le personnage... Office Space, c'est The Office un peu avant l'heure, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment... Mais sauf que... Enfin, c'était plus ou moins fait à la même époque que la série de Ricky Gervais, hein, à un ou deux ans près. Et c'est vraiment une comédie culte aux États-Unis. qui n'a pas du tout marché au cinéma, mais qui est vraiment un énorme produit vidéo, DVD, etc., etc.
Et Internet aussi a beaucoup fait pour la réputation d'Office Space. C'est justement le personnage de
Milton.
De Milton, Stephen Root, est devenu un mème, en fait. Voilà, c'est cet employé dont tu te...
Donc personne se préoccupe.
Personne se préoccupe et qui finit par buter tout le monde en fait.
Foutre le feu en fait à la boîte parce que personne justement ne s'occupe de lui. C'est vraiment le personnage extrêmement timoré.
Et le même en question, c'est on m'avait dit que parce qu'en fait c'est l'employé qui à chaque fois se pointe en mode il a reçu le mémo après tout le monde quoi. Mmh. Et on m'avait dit que il y aurait des gaufres quoi. Enfin dès que t'as envie de dire sur internet que tu te sens un peu largué par les autres, ben tu mets Milton. Quoi.
Voilà. Et le truc en fait avec ce personnage là, c'est que c'est un personnage de bon quasiment autiste. Hein. Voire un petit peu limité quoi et en gros le truc c'est que non pas que ça soit compatible mais c'est pour dire enfin voilà mais en tout cas il est présent enfin c'est vraiment un personnage enfin c'est un rôle de composition quoi et mine de rien c'est là où le talent de Stephen Root est assez impressionnant parce que il est capable de composer ça, il est capable de composer une ordure dans Get Out par exemple, il est capable de composer un manipulateur raté hein en vrai hein comme c'est le cas de Fuchs en fait donc c'est quelqu'un qui a je crois au moins 250 crédits à son actif
c'est
en fait
énorme voilà. il joue depuis la fin des années 80 hein, c'est 88 89 son début de carrière dans les séries de télé et au cinéma. Et la liste est incroyablement longue.
Mmh. Voilà, et le truc en fait c'est que s'il y a cette notion de ce qu'on appelle aux États-Unis le character actor quoi en fait c'est vraiment ça. C'est-à-dire c'est le type, on sait jamais comment il s'appelle, mais on sait qu'on l'a vu quelque part et on sait que c'est plutôt en général une performance de qualité quoi.
Et on connaît aussi sa voix puisque au-delà des séries télé et des films, il jouait plusieurs personnages dans la série King of the Hill, les rois du Texas en français. Il a fait les voix de Bill Dottrieve et Buck Strickland dans 259 épisodes. C'est pas rien.
Ouais. Donc voilà, Stephen Root, c'est vraiment, pour moi le comment dire, c'est à la fois Milton parce que physiquement en fait voilà c'est lui quoi, et cette espèce de petit cadre moustachu, comment dire, avec des lunettes trois fois trop grosses et peigné mais avec des pellicules dans les cheveux, enfin ce genre de choses, enfin vraiment le type dont tu te soucies jamais en fait quand en entreprise quoi. Et en même temps, tous ces autres trucs. Donc, c'est vraiment un comédien complet, quoi.
Alors, un autre comédien qui, lui aussi, tire son épingle du jeu, on l'a brièvement évoqué dans le premier épisode, c'est Anthony Carrigan, qui joue le mafieux tchétchène No Hank dans la série. Déjà, un comédien qui a un physique très particulier. Il souffre d'alopécie, c'est-à-dire qu'il a commencé à perdre ses cheveux très, très jeune, et ses sourcils, et ses cils. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il assume complètement. Et justement, il s'en sert dans les personnages qu'il crée.
Quand tu regardes un personnage en fait physiquement comme ça, en fait tu pourrais te dire c'est le type d'acteur qu'on irait chercher dans les films d'horreur. C'est-à-dire en fait pour lui faire jouer des figures un peu inquiétantes, fantomatiques, etc., etc. Et en fait justement lui, je pense qu'il a pas voulu se faire. Déjà, je pense que c'est pas sa nature.
Il l'a joué quand même.
Il
est souvent dans les séries de super-héros, que ce soit The Flash ou Gotham ou ce genre de trucs-là,
parce qu'il
a
Victor Zsasz dans Gotham.
Voilà, il a un physique de comic book en fait. Quoi.
Voilà, mais par contre en fait il est représentatif à mon sens de s'il y a quelque chose qui est comment dire de l'ordre de de l'improvisation dans Barry, il est représentatif de ça vraiment. C'est-à-dire que en gros, lui-même déjà, il est le. Je pense que comme on l'a raconté, comme c'est un personnage en fait qui a créé. Enfin, c'est un acteur qui a créé littéralement son personnage devant Bill Hader et Alec Berg. En fait, il leur a montré qu'il pouvait en fait être présent. Et du coup, en fait, je pense qu'il y a cette idée, notamment, qu'il puisse satisfaire. En fait, Bill Hader, il y a une scène en fait dans la saison 2, et ça c'est Bill Hader qui raconte ça, où il improvisait en fait sur les dialogues écrits, où il s'engueule avec, c'est-à-dire en fait il y a une scène où ils viennent tuer Barry, donc il le vise avec un snipe quand il est chez lui en train d'essayer d'écrire une séquence, et Barry en fait se bat, répond, en fait il les voit venir, il répond et il commence à tirer, il blesse notamment l'acolyte en fait qui est avec Hank. Et il vient les retrouver sur le toit d'en face. Et en gros, dans toute la séquence, il y avait, les deux Tchétchènes s'engueulent entre eux. Et Barry les laisse, enfin les regarde, et toute la séquence en fait, c'est qu'elle était écrite d'une certaine manière où c'était de toute façon tu fais que de la merde, et l'autre lui répond mais si moi je fais que de la merde, toi t'es le roi de la, enfin c'est toi t'es carrément tout en haut de la montagne de merde en fait qu'on a fait quoi. Et en gros, enfin bon, je traduis un peu basiquement quoi. Et le personnage, enfin Kerrigan en fait s'est mis à improviser énormément autour de ce dialogue là, à changer en fait le mot de merde pour mettre autre chose à chaque fois quoi. Et du coup, toute l'idée c'était de faire rire Bill Hader en fait, et c'est apparemment très facile de faire rire Bill Hader, et donc du coup en fait ils ont perdu un temps fou sur cette séquence là, voilà, mais ça démontre que vraiment en fait son idée c'est ok, ça a marché sur le premier épisode, j'ai réussi à créer ce personnage là, il faut vraiment que je continue à faire en sorte que mon personnage soit vivant dans la série pour que et donc en fait il faut que je fasse plaisir au boss quoi. Et bon, moi ce comédien là en fait, je crois qu'il a été réutilisé vraiment, j'ai un exemple de film en fait où il a été réutilisé vraiment sur ce type d'humour là, et c'est dans le troisième Bill & Ted en fait qui est sorti, alors qui est pareil, qui est sorti avec le Covid oblige en fait, qui est sorti en plateforme, en tout ça, etc., etc. Chez nous, c'est de la VOD, voilà. C'est de la VOD, quoi. Et bon, de toute façon, Bill & Ted, faut être honnête, c'était pas du tout connu. C'est avec Keanu Reeves et Alex Winter. Et en fait, il a un personnage comme ça, qui est un personnage, mais vraiment similaire à celui de Barry. Et je pense qu'ils l'ont vraiment choisi à cause de Barry.
En fait, c'est-à-dire que... Bill Hader racontait que, je crois qu'il avait un problème de laptop ou un truc comme ça, il avait été à l'Apple Store. Et en fait, le vendeur de l'Apple Store l'a marqué parce que le mec était en mode tellement je veux rendre service, quoi. Vous êtes mon client et je veux votre bien, qu'il s'est dit, il faut que je fasse un personnage comme ça,
extrêmement serviable. Voilà. Ouais.
Et en contraste avec Gozard, qui est vraiment le caïd typique, on va dire, quoi, et qui se retrouverait flanqué de cet employé du mois d'une certaine façon. Mais là, effectivement, où Kerrigan a complètement pété les plombs, c'était prévu encore une fois que pour un seul épisode, et la prestation de Kerrigan est allée tellement haut dans les aigus qu'ils se sont dit non mais c'est pas possible, ce personnage faut le garder quoi.
D'ailleurs il a une scène, enfin il a une sortie, enfin il y a pas une sortie puisqu'il est vivant hein, dans la saison 2, je spoil quelque chose de voilà, mais en fait il a la scène du bus notamment, ils font cramer le bus et d'un seul coup en fait il est persuadé qu'il va mourir, et il a besoin en fait d'exprimer en fait qu'il n'est pas un tueur de sang-froid en fait,
qu'il a des sentiments
et qu'en fait il se sent pas à sa place. En fait, c'est une scène qui est hyper drôle parce que je pense que voilà, elle est écrite parce qu'elle découle en fait de ce que lui il a créé de son personnage quoi.
Bien écoutez, j'espère que en vous présentant aussi l'envers du décor, on vous a donné envie de voir cette série.
Qui est vraiment une très bonne série, on vous la conseille, vraiment.
On vous la recommande, et sachez que HBO a renouvelé la série pour une troisième fois. Le tournage a commencé cet été, on le disait dans l'épisode précédent. Soyez patients, la diffusion devrait avoir lieu début ou printemps 2022. Ça vous laisse largement le temps de regarder les deux premières saisons, si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est pas tout, hein, les scénarios d'une potentielle saison 4 ont également déjà été écrits. Rien n'a été signé, hein, mais
c'est ça qui est intéressant justement, c'est que apparemment Bill Hader expliquait que ils ont pris la liberté d'écrire la saison 4 en fait de leur côté à cause du retard en fait de la pandémie en fait, et parce que la série devait sortir l'an dernier, et du coup ça leur a permis de revoir en fait les épisodes de la saison 3 et de mettre en fait des choses en place pour justement la saison 4, même s'ils ne savent pas si ça se fera vraiment ou pas quoi. Donc du coup, il y a un travail d'écriture encore plus fourni que d'habitude qui pourrait en fait vraiment être payant, je pense, dans la saison 3. Et puis ça se termine sur un petit cliffhanger en fait, la saison 2, on va pas spoiler, mais ça peut être intéressant de savoir où ça va aller quoi.
Moi, j'ai hâte de voir ça. En attendant, si vous voulez découvrir les deux premières saisons, elles sont disponibles sur OCS. Ça y est, cette collection consacrée à Barry est déjà terminée, hein, c'est passé vite. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ces deux émissions.
Merci Clémence.
C'était beau, c'était en cœur. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle collection. Bonne semaine et à très vite.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.